indicateur pour le prix d'un. Parce qu'en fin de compte, il y a eu un quiproquo, enfin, dans les. C'est pas grave. Ça montre que le Seigneur, ben, en fin de compte, des fois, dirige et d'une manière magnifique. Parce que vous allez avoir, en fin de compte, trois messages différents. Alors, cette semaine, je suis allé chez des frères et sœurs de l'Église et on a pu partager une vidéo que je vous invite, mais très vite, très très vite, à regarder. Cette vidéo, vous allez sur YouTube, pour ceux qui ont Internet, et vous tapez rescapé d'un avortement. Je l'ai envoyé à certains de l'Église, il me semble. Écoutez, lisez parce que c'est traduit. Cette femme fait un témoignage devant des gens qui ne sont absolument pas chrétiens. Devant des gens, en fin de compte, ce sont des personnalités. Et je ne sais pas pourquoi elle a commencé à témoigner de ça. Mais elle a une puissance dans son témoignage phénoménale. Et en fin de compte, elle témoigne d'une chose qui malheureusement est tellement vraie, surtout apparemment aux États-Unis, qui est un fléau. Et je pense que c'est en train de changer. Grégoire nous a envoyé un courriel concernant le changement de politique aux États-Unis, qui a commencé en 2002 d'ailleurs avec Bush, qui a interdit le meurtre des enfants. Enfin, je ne sais plus, vous lisez, vous regardez, je ne sais plus très bien comment elle l'explique, cette dame. En fin de compte, cette dame, elle est rescapée d'un avortement salin. C'est-à-dire qu'on injecte apparemment du sel et ça éjecte le bébé. Et dans son témoignage, ce qu'elle dit, c'est que c'est incroyable. Elle a été éjectée vivante. Elle n'est pas morte. Et je ne vais pas vous dire plus parce que c'est tellement magnifique, magnifique. Et maintenant, elle va à travers le monde pour témoigner de la puissance de Dieu. Mais écoutez ce témoignage, il est fantastique. À quel point le Seigneur agit, à quel point il est puissant dans nos vies. Et parfois, on se pose des questions. On se dit, ce matin, j'ai eu une discussion avec Arlette, elle me disait, mais je ne comprends pas pourquoi on est prédestiné, je ne comprends pas pourquoi plus nous que d'autres, je ne comprends pas. Mais en fin de compte, je lui dis, il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à chercher à comprendre, puisque c'est la volonté de Dieu. Dans nos vies, parfois, on se pose plein de questions. Et tout à l'heure, j'étais là et le Seigneur m'a mis à cœur sur le cœur que le Seigneur ne nous interdit pas de penser. Le Seigneur ne nous interdit pas de râler. Si vous prenez un enfant, il va dire ses parents, il va dire, mais je ne suis pas d'accord avec la décision que tu as prise. Est-ce que ses parents l'interdisent? Non. Puisque l'enfant a libre choix de dire à ses parents, je ne suis pas d'accord. Il n'est pas bâillonné. Mais maintenant, les parents lui expliquent pourquoi ils ont pris cette décision. Donc, vous comprenez pourquoi. Et on attend plein d'exemples où nos patriarches sont allés voir Dieu. On dit, mais attends, si on reste 10, tu peux les sauver. Il ne nous interdit pas ça. Mais le Seigneur est triste. Il est triste devant nos désobéissances. Il est triste devant nos choix. Il est triste parce que parfois on lui interdit par notre comportement d'agir dans nos vies. Et alors que si on prend Éphésiens chapitre 2, je vais prendre mes lunettes, ça ira mieux. Chapitre 2, verset 10. Je vais prendre à partir du verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est clair. On a beaucoup, parfois dans nos vies, on se pose plein de questions. On se dit, mais pourquoi ? Pourquoi j'ai tel problème ? Pourquoi je n'avance pas dans ma vie ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Mais on oublie souvent, et ça, Daniel, je le remercie parce qu'il le dit très souvent. Notre Daniel à nous, hein, pas le Daniel de la parole. Il nous dit souvent, on a des choix dans la vie. Si on est proche de la parole de Dieu, les choix qu'on fera seront selon la volonté de Dieu. Si on est loin de la parole de Dieu, les choix qu'on fera, ce seront les nôtres. Parce qu'il n'y a plus cette soumission à Christ, il n'y a plus cette soumission à la parole de Dieu. On est éloigné de la droiture de l'esprit. Et ce qui fait que à chaque fois, on va dans le mur. À chaque fois, on fait demi-tour. Et à chaque fois, on est obligé de se mettre à genoux, demander pardon, se repentir. Le Seigneur, c'est ce qu'il ne veut pas pour nous. Le Seigneur veut que nous soyons des piliers dans l'Église. Vraiment des piliers. Et j'avais lu sur les petits feuillets, c'est qu'on était esclaves de celui à qui on voulait être esclave. Si vous êtes vous voulez être esclave du monde, c'est votre choix, vous êtes esclave du monde. Mais le Seigneur nous demande simplement d'être ses esclaves. Et quand je dis esclave, c'est pas l'esclave que nous, on croit, nous, on voit, nous, on a entendu, nous, on a lu. C'est-à-dire l'esclave qui est vraiment assujetti, qui a un bol d'eau et un coton de pain. Mais c'est l'esclave avec un grand E. L'esclave de Christ. Et c'est terrible parce qu'on voit souvent des gens qui sont empêtrés dans des problèmes, empêtrés dans des choses inconsidérées, alors qu'ils n'ont simplement qu'une chose à faire. Se donner à Christ. Avoir les yeux fixés sur Christ. Et ça paraît difficile, mais c'est très facile. Quand l'aveugle a crié à Jésus, « Aie pitié de moi !» Jésus s'est retourné et lui a dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» On a l'impression que Jésus n'était pas trop au courant de la situation de cette personne. C'est faux, c'est totalement faux. Il connaissait parfaitement les problèmes de cette personne. Il voulait simplement une chose, qu'il verbalise ses problèmes. C'est-à-dire qu'il lui dit simplement, je veux que tu me guérisses. Je veux que tu me libères. C'est ce que veut Dieu dans nos vies, qu'on lui dise. Quand le Seigneur, dans sa parole, dit « Repentez-vous », c'est qu'il attend qu'on lui dise des choses. C'est l'image que j'ai employée tout à l'heure, le gamin qui n'est pas d'accord avec la décision de ses parents. « Je ne suis pas d'accord parce que l'enfant dit à son père ou à sa mère pourquoi il n'est pas d'accord. » Mais le père ou la mère ensuite explique. Et lorsque vous avez fait cette démarche, le Seigneur, au travers de sa parole, va vous expliquer. Va vous expliquer pourquoi vous êtes son ouvrage, pourquoi vous avez été créé en Jésus-Christ. Et j'aimerais vous amener en Apocalypse. Ce n'est pas la première lettre, c'est la deuxième. C'est Pergame. Si je saute une page, c'est sûr que ça ne va pas aller. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balaak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Ici, bien sûr, Jésus s'adresse à l'Église. Il s'adresse à l'Église. Alors, il faut savoir que Pergame, avec cette particularité, c'est qu'il y avait un temple immense qui était dédié à Esculape, je crois, qui était un dieu énorme, et que vous aviez des gens de l'Église de Pergame. C'est exactement ce qui a été dit ce matin, avec l'esprit du monde. Pergame était une ville très riche, une ville de commerce. Et les gens, pour éviter d'avoir des problèmes avec vous savez, avec tout le voisinage, ben, ils allaient dans leur église, et puis de temps en temps, ils faisaient plaisir au voisinage, ils allaient dans ce fameux temple, le trône de Satan. Ils s'attachaient, en fin de compte, à Satan. Ce matin, vous voyez, c'est dit, de même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Ce matin, la question, c'est à quoi sommes-nous attachés ce matin? Est-ce qu'on est attaché à son passé? Est-ce qu'on est attaché à la religiosité? Et je parle même pour moi. Hein. Ou est-ce que je suis attaché à Jésus-Christ, dont je suis l'œuvre, dont chacun nous en sommes l'œuvre? Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. C'est ce qu'il faut garder, c'est que chacun, le Seigneur Dieu nous a conçus avant que nous soyons au monde. Il ne nous a pas conçus pour être malheureux, il ne nous a pas conçus pour continuellement nous poser des questions sur notre foi. Il nous a conçus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. Vous voulez être des chrétiens performants? Lâchez tout. Lâchez absolument tout. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Accrochez-vous à l'amour de Dieu. Accrochez-vous aux promesses de Dieu. Les promesses sont partout dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Chacun, on fait partie de l'épouse. Et quand je parle de l'épouse, je ne parle pas de l'église locale. Je parle de l'épouse, la femme, l'église réelle de Dieu. On n'est pas, comme disait très justement Étienne, on n'est pas tantôt l'un très élevé et tantôt l'un tout bas. Parce que je vous rappelle quand même qu'on a le même esprit en nous. Cet esprit qui nous permet de dire « Je suis de Jésus-Christ ». Et si on ne l'annonce pas à droite et à gauche, c'est là où il faut se poser des questions. C'est là vraiment où il faut se poser des questions. Alors ce matin, j'aimerais vous encourager à tout lâcher. Tout lâcher. Et entrer dans une dimension spirituelle en Christ, en s'attachant à sa parole. Et qu'à sa parole, en ne s'attachant à rien d'autre. Parce que le malin peut vous demander, pour faire plaisir à telle ou telle personne, de faire des choses qui sont à l'encontre de la parole de Dieu. Et il va vous emmener dans des travers pas possibles. Parce que je vous rappelle que c'est un ange déchu et qu'il a cette capacité même de faire des miracles. À chaque fois, dans toutes les lettres de l'Apocalypse, ça se termine par « à celui qui vaincra ». Si vous voulez vaincre tous les problèmes qui sont en vous, tous ces liens, tous ces attachements, il n'y a qu'une chose à faire. Déjà, se donner à Christ, lui parler, comme l'enfant qui dit qu'il n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce qui m'arrive dans ma vie. Je ne suis pas d'accord avec ceci. Le Seigneur est là pour l'entendre, parce qu'il est notre Père. Donc c'est ça, c'est commencer à lire, donner sa vie, lire sa parole, parler avec notre Dieu. Il viendra. Et son esprit va vous témoigner dans votre cœur de qui vous êtes réellement. Et je peux vous assurer, parce que là je peux vous le témoigner, ça s'est passé dans ma vie, vous recevez une joie comme jamais vous n'avez reçu. Parce que même quand la tempête vient, vous savez que les murs qui sont autour de vous sont puissants. Et les murs, c'est Jésus-Christ. Les murs, c'est ce fameux lierre qui vient dans votre vie et qui soude tout. Et ce que vous réclame le Seigneur ce matin, c'est vous soyez soudés en lui. Sa parole ne vous dit pas que vous n'allez jamais traverser de tempête. Elle ne vous dit jamais que vous ne traverserez pas la maladie. Mais le Seigneur, c'est par vos faiblesses qu'il va faire son œuvre en vous. Et il vous attend ce matin. Il vous attend et je pense que beaucoup dans l'Assemblée doivent faire ce pas de vraiment, vraiment, vraiment se donner à lui et de devenir son esclave. Amen.
Voilà, n'ayez pas peur, je ne dépasserai pas midi. On s'est réparti le travail. Voilà, juste deux versets qui sont aussi dans la continuité de ce qui se dit. Dans Éphésiens 5, un verset que je tire du contexte, mais le sens est très parlant en lui-même. Donc Éphésiens 5, verset 14, c'est pour cela qu'il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Donc voilà un verset frappant, un message « Réveille-toi et relève-toi d'entre les morts. » Et si ce matin vous avez l'impression d'être endormi, si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous accable, quelque chose qui vous trouble, quelque chose qui vous met par terre, parmi les morts. Eh bien, il y a une parole du Seigneur qui est très claire, qui est donnée ici, qui est donnée à plusieurs endroits, on verra, qui dit « relève-toi ». C'est-à-dire que Dieu donne la puissance de se relever. C'est pas seulement qu'il dit, on l'a entendu bien des fois ici, c'est pas seulement qu'il dit « lève-toi et marche » au paralytique, mais il donne la puissance de le faire, n'est-ce pas ? C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est cette puissance qu'il donne. Mais il attend qu'il y ait cette démarche de dire « Aujourd'hui, je vais me lever. Aujourd'hui, je vais me réveiller de ce sommeil. Aujourd'hui, je vais me lever parce que je vis, je m'allonge avec les morts. C'est comme si je n'ai plus de vie en moi. » Peut-être vous avez ce sentiment-là ce matin. Et cette parole est certainement pour vous aussi, de se lever et de dire « Moi, aujourd'hui, je veux que Christ m'éclaire, que je puisse me lever, recevoir sa vie. » Et j'aimerais, ne tournez pas forcément, mais vous lire quelques versets dans Ésaïe 60 à ce sujet. Et le chapitre 60 d'Ésaïe commence en disant « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaîtra ou apparaît. » Voilà, si vous n'avez pas remarqué que les ténèbres couvrent la terre, eh bien, vous avez là cet écrit, mais je crois qu'on n'a pas besoin de le lire ici pour savoir qu'il y a tant de ténèbres. Mais il est dit, « Mais sur toi, sa lumière apparaît. Sa lumière brille sur toi. » Et c'est ça la grâce de Dieu qui nous est faite, c'est de pouvoir marcher dans sa lumière, de pouvoir se lever et de dire « Voilà, moi aujourd'hui je veux être éclairé. Moi, aujourd'hui, je veux marcher, même si je suis abattu, même si je suis découragé, même si ma vie spirituelle semble au ralenti et semble avoir, il semble que j'ai perdu du terrain. Eh bien, aujourd'hui, je le veux. Et vous avez dans Ézéchiel chapitre 37 ce merveilleux passage de la description de la vision que Ézéchiel a eue de cette vallée des ossements. Et dans cette vallée, il voyait que des os de gens qui étaient morts, n'est-ce pas? Et le Seigneur lui a dit de prier, de déclarer que la vie vienne. Et donc il a crié, il a appelé le Saint-Esprit. Il a dit « Esprit, viens et souffle », n'est-ce pas? Voilà une prière qui est très simple, mais c'est une prière qui est puissante. Voilà une prière que beaucoup de gens n'osent pas faire chez eux. Ils n'osent pas faire en public peut-être, mais ils n'osent pas le faire chez eux parce qu'ils ont peur de l'Esprit de Dieu. Ils ont peur que s'ils prient ça, Dieu va commencer à agir dans leur vie. Et au fond, ils ont peur que Dieu commence à agir dans leur vie. Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Parce qu'il y a des choses qui vont changer. Parce que ça va faire un bouleversement de leur propre vie, de leurs habitudes. Aussi, l'environnement, les gens autour vont voir qu'il y a quelque chose qui va changer. Et souvent, on se réfugie dans ce qui était, ce qui a toujours été et ce qui est notre présent maintenant, c'est-à-dire ce qui ne bouge pas, c'est-à-dire ce qui est mort. Mais est-ce que nous sommes prêts de faire cette prière que Ézéchiel a faite, sous la dictée de Dieu, de dire « Esprit, viens et souffle ». Souffle en moi afin que ce qui est mort puisse reprendre vie. Souffle en moi afin que je voie ce miracle d'une vallée d'ossements de ma vie desséchée, qui commence à reprendre forme, qui recommence à prendre vie, et que je puisse voir la lumière de Dieu qui m'éclaire et de voir que je marche. Et lorsque vous avez fait cette prière du plus profond de vos cœurs, ça peut être un cri, ça doit être un cri que vous faites personnellement entre vous et Dieu, eh bien Dieu va commencer à agir dans votre vie, il va commencer aussi à agir dans l'Église. J'aimerais beaucoup que avant chaque dimanche, nous soyons à prier « Seigneur, souffle !» Pas comme une prière magique, pas comme une habitude, pas comme quelque chose que l'on va dire comme ça en disant « Bon voilà, on a fait la prière qu'il fallait », mais en désirant réellement que l'Esprit de Dieu commence à agir dans les vies. Que l'Esprit de Dieu commence à agir dans les cœurs, de sorte à ce que, encore une fois, si quelqu'un vient pour la première fois, il ressente la vie de Dieu qui traverse son cœur, qui traverse ses pensées, sa vie, que les choses qui sont cachées de son cœur soient dévoilées, comme dit l'apôtre Paul, et que la lumière de Dieu apparaisse. Mais ça, c'est une parole qui est ici à saisir dans Ésaïe 60 comme dans Éphésiens 5. « Lève-toi, sois éclairé. » Mais il faut, vous voyez, cette injonction d'abord, « Lève-toi. » « Lève-toi. » Je ne vais pas le faire, mais si je demandais maintenant, qui est-ce qui est prêt à dire « Je me lève. » Eh bien, si vous dites ça au Seigneur, « Seigneur, je me lève pour toi. » Je me lève parce que j'ai besoin d'être éclairé. Et non seulement je me lève, mais aussi je crie « Viens, souffle sur moi, Esprit de Dieu. » Et pour que la vie puisse commencer à venir en moi, pour que ces ossements soient vraiment pleins, recouverts de chair et pleins de vie, eh bien c'est ça qu'on va voir. Parce que c'est la promesse de Dieu, parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est ça que fait l'œuvre du Saint-Esprit. Pourquoi laisser cette œuvre du Saint-Esprit seulement pour les gens qui sont loin? N'est-ce pas? Quelquefois, quand on doit trouver des témoignages extraordinaires, il faut qu'on aille chercher un livre missionnaire et ça se passe à des milliers de kilomètres, n'est-ce pas? Pourquoi on est obligé de faire ça? Parce qu'on n'a pas d'exemple concret dans nos propres vies, parce qu'on n'a pas d'exemple concret dans nos églises. Et ça, c'est parce qu'on est en train de s'allonger parmi les morts. On est en train de s'allonger dans les ténèbres, n'est-ce pas, avec le monde. Parce qu'on est en train de côtoyer un peu ce que on fait à peu près la même chose que ce que le monde fait, mais on porte en plus l'étiquette de chrétien. Le Seigneur demande que on soit séparé, qu'on soit mis à part, et qu'on se lève et qu'on soit éclairé par sa parole, comme il a été dit. et que l'on marche dans cette lumière, qu'on marche dans cette vie de l'esprit. Et c'est ce qui s'est passé avec cette armée qui était, ces ossements, ils ont pris vie, ils ont constitué une armée puissante, une armée vivante. Et que ce soit ça notre expérience. Rien d'autre, rien de moins que cela, que notre expérience soit, nous soyons debout parce que le Saint-Esprit a soufflé sur nous et souffle sur nous en permanence. Amen.